Mesdames, Messieurs, je suis chargé d'inaugurer, si j'ose dire, ce colloque que Antoine Compagnon et moi-même avons organisé. Et je souhaite la bienvenue à tous nos hôtes et à tous nos auditeurs. Et je vais commencer par une petite introduction, pas trop longue, j'espère, pour suggérer que le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le suspens des années 1918-1939 et le rôle que pendant ces 20 ans a joué la République des Lettres, ont des précédents dans la longue durée européenne. Je ne peux pas, dans cette introduction, faire autre chose que suggérer quelques points de repère rétrospectifs. Mais étant donné la continuité, malheureuse d'ailleurs sur certains points, de la longue durée européenne, je ne peux faire autrement que de rappeler quelques points essentiels en marge et en amont, évidemment, de maîtres livres comme celui de Raymond Aron, « Guerre et paix entre les nations » ou celui d'Henry Kissinger, « Diplomatie ». Je me dois d'abord d'éclairer la notion de République des Lettres que nous avons adoptée comme point de vue sur la période d'entre-deux-guerres 1914-1945. Nous ne l'entendons, je crois, ni au sens moralement transcendant que Julien Binda, en 1927, a donné à son livre fameux « La trahison d'Éclair », ni au sens sociologique qu'a donné notre collègue Pierre Bourdieu à son concept de champ intellectuel. Nous sommes revenus, tout au moins par prudence et par modestie, si j'ose dire, au sens que ces inventeurs, les inventeurs de cette notion de République des Lettres, notion par définition supranationale, internationale, européenne, ont donné, et parmi ces inventeurs, il faut compter naturellement Erasme, il faut compter Bayle, il faut compter Voltaire, il faut compter Renan, qui emploie ces expressions, donnèrent à l'expression latine « Respublica Literarum ». Ce syntagme a fait son apparition en 1417, donc c'est une notion qui a une longue histoire. Il ne sera traduit et popularisé en langue vernaculaire, tant en français d'ailleurs qu'en anglais et en italien, qu'au XVIIe siècle. Il a été formé sur le modèle de Respublica Christiana, le nom médiéval de la chrétienté latine et de son unité fondamentale. Et en réponse à la crise qui frappait le Saint-Siège, le principe de son unité à la fin du XIVe siècle. Cette année-là, en 1417, un concile européen s'est réuni à Constance à l'appel de l'empereur Sigismond pour mettre fin au grand schisme d'Occident et à la rivalité de trois antipapes, dont l'un à Rome. Ce fut le premier des grandes assemblées de paix qui vont désormais, alternant avec les temps de schisme et de guerre, rythmer pour le meilleur, mais aussi quelquefois pour le pire, l'histoire de l'Europe moderne. Le Concile de Constance, anticipé à la fois sur les conciles de théologiens du XVIe siècle, celui de Latran, convoqué par Jules II, celui de Trente, convoqué par Paul III, et sur les congrès de représentation princière du XVIIe et du XVIIIe siècle, Westphalie, bien sûr, d'abord, Ryswick, Utrecht, Paris, renouvelé en 1814-1815 à Vienne et au XIXe siècle à Versailles en 18 et à Locarno en 24. Au concile à prédominance ecclésiastique ont succédé en effet à partir du XVIIe siècle les congrès d'ambassadeurs laïcs chargés par leur prince de mettre fin à un conflit armé entre États européens. Et au raid de langage de la théologie scolastique, celui des conciles, fit alors place le langage souple et retors de la diplomatie, dérivé de la rhétorique humaniste et pratiqué par des négociateurs qui en connaissaient les ressources. À Constance, en 1417, dans ce lieu où il faut toujours revenir lorsqu'on parle de République des lettres, cette mutation de la dispute d'école entre théologiens au dialogue entre diplomates n'était encore qu'en germe. Les humanistes florentins, venus avec l'antipape romain Jean XXII, y furent marginalisés par les théologiens, alors que 20 ans plus tard, en 1437, lors du concile œcuménique de Florence, qui visait à la réunion entre l'Église latine et l'Église byzantine, les disputes épineuses entre théologiens romains et grecs s'entrecroiseront avec le dialogue entre humanistes latins, essentiellement florentins d'ailleurs, et les humanistes venus de Byzance, dialogue qui inaugura l'hellénisme européen de la Renaissance et en particulier ce grand mouvement néoplatonicien que André Chastel a si bien étudié. Les disputes entre théologiens des deux bords aboutirent néanmoins à un accord de réunion entre les deux églises. Il fut proclamé solennellement sous la coupole neuve de Brunelleschi à Sainte-Marie-Nouvelle et accueilli par les Italiens dans l'euphorie générale. Il fut suivi aussitôt dans les deux camps, le romain et le byzantin, d'accusations de trahison de la part des négociateurs, ce qui rendit impossible la croisade qui aurait dû sauver Byzance, assiégée par les Turcs. Cinq siècles plus tard, lors de la conférence et des accords de Locarno, censés garantir 30 ans de paix à l'Europe, l'euphorie initiale, dont tous les journaux ont fait état à l'époque, fut vite suivie en France et en Allemagne de violents soupçons nationalistes qui pavèrent la voie à la chute de la République de Weimar et à la Deuxième Guerre mondiale. À Constance, en 1417, l'antipape italien Jean XXII, croyant pouvoir être confirmé par le Concile, s'était rendu avec une suite d'humanistes florentins, dont il avait fait des secrétaires de curie, parmi lesquels Poggio Bracciolini. Ces lettrés laïcs n'impressionnèrent pas les théologiens du Concile, qui déposèrent Jean XXII, in presentia, et qui déposèrent également les deux autres antipapes in absentia. Diplomate au chômage, donc, à partir du moment où son maître avait été chassé de Constance et du Saint-Siège, Poggio Bracciolini eut donc tout loisir, avant de regagner l'Italie, de se livrer dans les bibliothèques de couvents de Suisse et d'Alsace à un sport humaniste par excellence, la chasse aux manuscrits carolingiens de textes antiques absents des bibliothèques italiennes. Sa récolte fut très abondante. Il trouva, entre autres trésors, à Saint-Gall, un texte complet de l'Institutio Oratoria de Quintilien, dont le Moyen-Âge n'avait connu que quelques fragments. Il envoya copie de ces trésors à Florence, et c'est au nom de la communauté des humanistes italiens que le félicita par correspondance le jeune aristocrate vénitien Francesco Barbaro, qui achevait alors sa formation littéraire dans la capitale toscane. Cette épître de gratitude et de louange, écrite dans un latin classique et non dans le latin de l'école, voulait manifestement compenser l'échec de Bracciolini, diplomate, par sa glorification de philologue. La notion clé de cet éloge, dans cette lettre qui est maintenant devenue célèbre, est « res publica literarum », entendu en deux sens. D'abord, le bien commun, littéraire, antique, patrimoine de toute l'Europe moderne, que vient d'augmenter notablement, bien sûr, la récolte de Bracciolini, mais aussi l'ensemble des lettrés qui réunissent, publient, font fructifier ce patrimoine retrouvé de l'Europe. Res publica literarum ne s'oppose donc pas à Respublica Christiana. Au contraire, elle vise à lui apporter du sang neuf, elle vise à la reconstruire et à la civiliser en la mettant à l'école de l'Antiquité gréco-romaine, de son éloquence, de ses arts, de ses sciences et de sa sagesse civile retrouvée dans ses textes et ses monuments longtemps dispersés, enfouis ou oubliés. Comme Socrate, la philologie et l'antiquariat des humanistes de la République des Lettres prétendent ramener la sagesse du ciel sur la terre, à arracher la parole à la barbarie gothique et à introduire dans l'histoire des hommes l'humanitas et l'urbanitas des anciens. Par son style, comme par sa glorification du destinataire, cette lettre condamne le langage de la dispute théologique et attribue à la philologie et à l'éloquence la responsabilité et l'interprétation d'un patrimoine antique restitué à toute l'Europe moderne et chrétienne. Dans la personne de Poggio Bracciolini, nouveau quintilien en quelque sorte de l'ère chrétienne, elle célèbre l'éducateur des cités et des chefs d'État modernes. Mieux que les théologiens qui l'ont déposé, l'antipape Jean XXII avait compris à quel point le Saint-Siège lui-même, tête de l'Église universelle, mais aussi chef d'État temporel, avait lui aussi besoin de ces médiateurs entre le savoir antique retrouvé et la vie diplomatique et politique de la chrétienté moderne telle qu'elle était en train de se développer. Les papes du XVe siècle, dont la série sera inaugurée par le Concile de Constance, comme les princes italiens, s'entourèrent d'humanistes qui, au fond, étaient devenus les instruments indispensables de l'exercice du pouvoir moderne. Jouissant d'un relatif équilibre diplomatique entre ces principaux États, chose qu'on oublie souvent, l'Italie du XVe siècle a été particulièrement paisible en quelque sorte, malgré des conflits locaux vite surmontés, l'Italie devint alors l'école d'humanisme de l'Europe. Arrive Erasme, arrive Budet, arrive de toute l'Europe de futurs grands savants qui se forment ou achèvent de se former en Italie. C'est cette école que l'invasion en 1494 de Charles VIII et de l'armée féodale française, qualifié à juste titre de barbare par le napolitain Pontano comme par le florentin Machiavel, abîma sans rencontrer de résistance militaire du nord au sud de la péninsule cette espèce de petite oasis de paix dans l'histoire de l'Europe. Pendant cette période de paix relative en Italie, avait grandi au nord de l'Europe des États d'une toute autre échelle, dont la rivalité va trouver, dans l'Italie soudain déstabilisée par l'invasion française, l'un de ses champs de bataille favoris. Plusieurs de ces États retrouvèrent dans le schisme, trouvèrent dans le schisme anglican, puis luthérien, l'occasion de s'émanciper entièrement de la Respublica Christiana romaine, tel que le Moyen-Âge l'avait conçu. Au début du XVIe siècle, la carte politique et religieuse de l'Europe est bouleversée, l'Italie ravagée est la proie d'États étrangers et de leurs armées, l'Europe chrétienne est fêlée, sans recours, et ses grands États rivaux se livrent à une escalade guerrière, et notamment en terre italienne. Devant ce tragique émiettement de l'unité chrétienne, deux humanistes, l'un Machiavel, aspirant en 1513 au rôle de conseiller de la puissante famille Médicis, l'autre Erasme, nommé en 1517 conseiller du futur empereur Charles Quint, qui n'est pour le moment que Charles de Bourgogne, prirent publiquement position. L'un écrit dans sa langue maternelle, le toscan, Le Prince, qui circula en manuscrit en Italie, mais qui ne sera publié en Angleterre qu'en 1532, l'autre, dans la langue universelle de la Respublica Literarum, le latin, écrit sa complainte de la paix, la Querela Pacis, et il la publie peu de mois après la conclusion, apparemment heureuse, d'un congrès de princes réunis à Cambrai, et où François Ier, le futur Charles Quint et l'empereur Maximilien avaient signé un traité de paix qui paraissait très rassurant. Le texte de Machiavel et celui d'Érasme sont demeurés jusqu'à nos jours les grands classiques de la pensée européenne sur la guerre et sur la paix. Érasme, en 1517, était déjà très célèbre. Ses correspondants de toute l'Europe le qualifiaient même de « prince de la République des lettres »,« princeps rei publicae literarum ». En 1513, Machiavel, lui, n'était qu'un diplomate en disgrâce, guère connu ailleurs qu'en Italie. Il venait de publier, toujours en toscan, son commentaire sur la première décade de Tite-Live. Érasme était le savant éditeur et exégète du Nouveau Testament et des Pères de l'Église, et l'auteur de best-sellers européens, les adages, les colloques, l'éloge de la folie, les plus grands succès de librairie, peut-être de toute l'histoire la librairie. Les deux humanistes avaient en commun d'être des rhétoriciens hors de pair, virtuoses de plusieurs genres littéraires, mais l'un dans le latin international des humanistes, l'autre dans la langue nationale des humanistes proprement italiens, le toscan de Dante, de Pétrarque et de Boccace. L'un, le cosmopolite Érasme, conseiller de Charles de Bourgogne, était préoccupé par les divisions religieuses et politiques qui ruinaient l'unité et la paix de l'Europe chrétienne et qui compromettaient son processus de civilisation, pour reprendre l'expression de Norbert Elias. L'autre, Machiavel, traumatisé par l'impuissance italienne et florentine à repousser militairement les prédateurs étrangers, était décidé à pourvoir l'humanisme italien d'une clairvoyance et d'une volonté politique et militaire à la hauteur de son raffinement culturel, ce qui lui avait cruellement manqué jusqu'alors. Leur point de vue sur la même tourmente historique était irréconciliable. Dans la Querela Pacis, Érasme lance un appel pathétique au pape Léon X et aux princes de l'Europe pour qu'ils s'accordent à mettre fin à un monstrueux paradoxe, dont il s'emploie à décrire les deux termes. D'un côté, la nature humaine, la raison humaine, l'expérience historique et par-dessus tout l'Évangile recommandent aux Européens la paix, le bien suprême, le bien absolu. De l'autre, la guerre et son enfer font actuellement rage entre chrétiens, laïcs ou religieux, et entre nations chrétiennes qui se déchirent au nom du Dieu de paix. Ce paradoxe, selon Érasme, a pour cause les survivances barbares de la culture de guerre féodale, étayée par la doctrine augustinienne de la guerre juste, qui fait autorité auprès de tous les théologiens de l'époque, mais que l'exégète Érasme s'emploie à réfuter depuis longtemps, en particulier dans un de ses plus célèbres adages. Il prêche un nouvel évangile, tout hérénique, et une seconde conversion chrétienne de l'Europe à un Christ qui serait le prince de la paix. Cet éloquent sermon pacifiste connaîtra un revival éditorial dans toutes les langues d'Europe après 1918. C'est un texte donc qui relève de notre période. Il avait paru initialement dans le sillage du traité franco-germanique de Cambrai, qui cachait sous les apparences d'une sorte d'euphorique conciliation un projet tout simplement de dépeçage de l'Italie entre la France et l'Empire. Et dans l'euphorie créée l'année suivante par le traité de paix perpétuel et universel entre France et Angleterre, qui fut signé entre François Ier et Henri VIII dans le fameux et illusoire camp du drap d'or. Autant de rideaux de fumée qui cachaient un prochain rapprochement anglo-allemand et la guerre franco-allemande en gestation dans le Milanais, où le pauvre François Ier croira jouer son royaume et qui manqua de peu de le perdre. Le prince de Machiavel s'adresse, lui, indirectement au pape Léon X Médicis et directement à la famille Médicis qui vient de reprendre le pouvoir à Florence. Il veut les convaincre, à l'exemple des méthodes qui ont réussi à la Rome antique, de créer autour de l'État florentin et de l'État pontifical un système d'alliance qui pourvoie l'Italie humaniste des moyens politiques et militaires d'expulser les étrangers et, à plus long terme, de recréer autour d'elle, en Europe, un empire civilisé. Il construit son argumentation autour des deux notions de fortune et de vertu. Pour subjuguer la changeante fortune sublunaire, il faut que la vertu humaine du prince sache se saisir de l'occasion propice. Elle le peut selon deux styles, celui de la prudence dilatoire de Fabius Cunctator, qui a eu raison d'Hannibal, ou celui de l'emportement divinatoire qui a si bien réussi à Scipion l'Africain et tout récemment au pape Jules II. Dans les moments de crise majeure, et c'est plus que jamais le cas sous Louis X, donc en 1517, quand le traité est écrit, c'est le second style, celui de l'audace, qui doit prévaloir. Ce style suppose le recours à la force et à la guerre, et en l'occurrence, au réarmement de l'Italie par le prince que Machiavel appelle de ses vœux et dont il prépare l'avènement dans une péroraison pathétique, vibrante de patriotisme strictement italien, adressée à tous ses compatriotes. Sur le champ, il ne sera pas plus écouté qu'Erasme, sauf à petite échelle, par Cosme Ier de Médicis, qui va créer effectivement le puissant grand-duché de Toscane, et par Paul III Farnèse, qui va créer pour sa famille le duché de Parme, mais rien de plus. Sur le long terme, il en ira évidemment autrement. Chaque fois qu'une nation veut se poser en quelque sorte en empire, le texte de Machiavel va redevenir d'intense actualité, oubliant en quelque sorte que c'était avant tout et au départ un projet strictement italien. D'un extrême à l'autre, du pacifisme mystique de l'évangélique Erasme au décisionnisme politique et militaire de l'impérialiste Machiavel, tant les princes de la République des Lettres que les princes des États européens ont souvent oscillé. Du côté d'Erasme ont penché Fénelon, l'abbé de Saint-Pierre, Kant, Romain Rolland, voire le tsar Alexandre Ier, Madame de Krudener, quand ils inspirent la Sainte Alliance. Du côté de Machiavel se sont rangés les Jacobins, Napoléon, Bismarck, Maurras, Mussolini, Karl Schmitt, Hitler et Staline. Mais le plus souvent, la République des Lettres et les chefs d'État européens, tant d'anciens régimes que post-89, ont préféré une voie moyenne et pragmatique, combinant ou alternant prudence et audace, guerre et diplomatie, soft et hard power, comme on dit aujourd'hui. Lucien Bailly l'a montré dans ses beaux travaux, le processus humaniste de civilisation s'est transposé lui-même entre 16e et 17e siècle au service de relations internationales européennes ininterrompues, même par les guerres, et en une culture subtile et rusée de négociations à l'infini, si j'ose dire. Le type de rhéteur et de pédagogue humaniste s'est lui-même transposé en diplomate, souvent caché sous le masque innocent de l'érudit, de l'antiquaire, du collectionneur d'art, autant d'ancêtres de la brillante académie littéraire et artistique dont s'entoura Philippe Berthelot pendant son long règne au Quai d'Orsay avant et après 1914. Ces honnêtes espions, voyageurs, ne cessèrent plus au cours même des guerres, de préparer en sous-main les compromis qui, provisoirement, y mettraient fin. Dans l'entre-deux-guerres 1839, l'esprit d'Erasme crut l'emporter à Locarno, au Quai d'Orsay, peuplé de gens de lettres, et dans le théâtre de Jean Giraudoux, qui est peut-être le plus grand, le plus extraordinaire témoignage de cette espérance, en quelque sorte, que Erasme avait déposé dans sa Querela Passis. Le 10 septembre 1926, Aristide Briand déclarait à la SDN, dernier avatar en date des classiques congrès de paix, « Entre l'Allemagne et la France, c'en est fini des rencontres douloureuses et sanglantes dont toutes les pages de l'histoire sont tachées. C'en est fini des longs voiles de deuil sur des souffrances qui ne s'apaiseront jamais. Plus de guerre, plus de solutions brutales et sanglantes à nos différends. Certes, ils n'ont pas disparu, mais désormais, c'est le juge qui dira le droit. Arrière les fusils, les mitrailleuses et les canons, place à la conciliation, à l'arbitrage, à la paix. 12 ans plus tard, c'est plus platement l'esprit routinier de compromis diplomatique qui crut à Munich gagner du temps et tromper le diable. Mais l'esprit de Machiavel s'était emparé depuis 1917 de la Russie soviétique et depuis 1931 de l'Allemagne hitlérienne. Entre ces deux monstres froids qui se servaient de la défense de la culture et du pacifisme intégral pour rallier à leurs impérialismes des gens de lettres et des savants en vue, que pouvait l'éloquence de la République des lettres ? Nous vous remercions d'être venus ici pour nous aider à formuler une réponse. Et je vais immédiatement passer la parole au grand spécialiste de Philippe Berthelot et du Quai d'Orsay pendant cette période, M. Jean-Luc Barret.